Quelle conversation entre vous deux, hein.
Et à quoi, il est résistant à quoi, là?
Non, non, mais c'est un entretien infini.
Oui, à accueil, je suis tout à fait d'accord. Un lieu d'accueil, ah oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, en fait, c'est... Mais bon, voilà, ce que j'ai à l'esprit, c'est... Ce que j'ai à l'esprit, c'est la question de la mélancolie, en fait. Voilà.
Oui, ben alors, vas-y.
Non, oui, ben justement, je vais essayer de... Non pas de dire ce que tu vas dire, non, mais justement. Un écho de cela par rapport à une expérience. Janine, tu nous encourages à justement donner une place à l'émotion et dans la métapsychologie. Et je me souviens que quand j'étais môme et que je vivais à Marseille, mon meilleur copain, c'était Guédiguian. Et ce Guédiguian, enfin, ce n'était pas le cinéaste, il était apparenté. Non, non, ce n'était pas le cinéaste. Il y avait quand même beaucoup de Guédiguian. Et donc, ce Guédiguian, un jour, c'était la guerre d'Algérie, à l'extérieur, enfin, à l'extérieur de Marseille, encore que. Et il y avait donc toutes ces traces de la colonisation, de la torture. Bon, donc on parlait de ça dans la cour de récré.
Et à quel âge à peu près la cour de récré?
Oh, bah, la cour de récré, j'avais quoi, 8 ans.
Ah oui,
oui, primaire. Oui, 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 oui. Et donc on parlait de ça. On jouait à la guerre aussi. Et donc un jour, il me prend à part et il me dit, mais tu sais, dans ma famille, il s'est passé quelque chose de terrible. Il savait pas le nommer, bien sûr, mais ça lui donnait, ça entrait en résonance avec ce qui se passait. À deux pas, quoi, puisque Alger et Marseille,
oui,
c'est vraiment en miroir.
Hein. Énormément d'Arméniens à Marseille.
Et alors, j'en parle à ma famille, j'en parle à mes parents, enfin à ma mère, et ma mère, à ce moment-là, éclate en sanglots. Je ne comprends rien du tout, évidemment, ma mère n'est pas arménienne, et je comprends à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose, évidemment.
Oui.
Et un peu plus tard, elle va sortir d'une valise qu'elle avait volée à un officier nazi. Elle sort plein de photos. Ma mère avait eu une vie d'infirmière très jeune, après la résistance. Elle s'était engagée dans l'armée Patton comme infirmière. Elle a fait la campagne d'Allemagne et elle est allée ouvrir avec les Américains les camps de Dachau, Buchenwald et j'en passe. Elle a fait ça, elle avait 20 ans. Bon, vous imaginez évidemment ce que ça peut signifier. Et elle me montre toutes ces photos. Et dans toutes ces photos, c'est des photos de copains de régiment, de trophées nazis piétinés, et puis tout ça dans cette valise. Et je me dis, bon, mais pourquoi ça l'a fait pleurer? Je ne comprends toujours pas. Tout ça avait l'air heureux. C'était la vie du régiment pour une fille. Et ensuite, quelques jours après, elle me raconte que ce qu'elle voulait mettre aussi... quelque part, mais pas sur des images, c'était ce qu'elle avait vu à Buchenwald, à Dachau, et qu'elle n'avait jamais pu photographier. Il était impossible pour elle de faire des images de ça. Autrement dit, il y avait là un blanc qui était réanimé par la parole du génocide arménien transmise par moi, faisant écho chez elle.
C'est intéressant d'ailleurs qu'elle ait réagi. Parce que
ah oui, complètement.
C'est une histoire totalement différente.
Totalement, mais c'est le génocide, mais ça lui parlait.
Ça lui parlait.
Donc. Ah oui, ça lui parlait. Justement, elle n'en parlait pas. Donc, mais il y avait ces photos qui entouraient comme une monstrueuse décoration le trou. Hein. Mm. Et ensuite, elle m'a raconté, alors que j'avais... 8 ans, je n'y comprenais strictement rien. C'était la même chose que mon copain. Il ne comprenait pas le génocide arménien, et pour cause, parce que c'était impensable.
On comprend qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est.
Exactement. Et je dois dire que ça a décidé du cours de ma vie, parce que j'ai passé le reste de ma vie à essayer de comprendre ce qu'elle me disait.
Oh, oui, c'est merveilleux.
Mais c'est souvent quand même par le détour que l'émotion surgit. Enfin, en tous les cas, l'expérience...
Ah oui. C'est extraordinaire qu'elle repère ça dans la parole de son fils qui lui parle d'un copain. Et du coup, ça la renvoie à sa propre vie et donc à tous ceux qui sont morts.
Et tous ceux qui étaient des inconnus morts.
Qu'il y a eu ça dans le monde, que le monde vit avec ça.
Mais c'est l'absence.
Comment ?
Ça ne faisait pas image.
Ça ne faisait pas image, oui.
Il n'y avait pas
pas de film, c'était pas c'était bien avant lui, Brouillard.
Oui.
Et j'imagine que tu as dû lui parler de l'embarras de ton copain et du tien, enfin de l'absence de mots, et que c'est peut-être ça qui a déclenché l'émotion. Hein. Ça lui apparaît son absence de mots.
Ouais, ouais. Et finalement, tout ton travail dans la vie, quoi.
Oui, ce dépôt-là, on fait avec.
Oui, c'est-à-dire que la dette, elle est de multiples façons. Elle est de multiples façons. Parce que ce n'était pas dans ta famille, entre guillemets, mais c'est ce qu'elle avait vu. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est ta mère.
Et ce pourquoi elle s'était aussi battue.
Ah oui.
Sans savoir qu'elle avait débouché sur ça, qui n'était pas simplement le nazi avec un uniforme.
Je te remercie parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon travail. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel endroit je rencontre les autres. Et comme je le disais dans les conversations, c'est ou bien des gens qui viennent de je ne sais quel crime de masse, ou bien alors des crimes dans la famille, des viols, des incestes, des malheurs profonds, des exils. Oui, oui.
Les contestataires aussi. Ce matin, j'ai évoqué Pasolini qui ne supportait que sa langue maternelle de Frioulan et qui ensuite... est passé, n'a plus supporté la langue qu'il appelle des fascistes italiens. On peut imaginer qu'il y a quelque chose du côté du père. Enfin, je ne sais pas ce qu'il mettait dedans, à part les fascistes, ça c'est sûr. Et en fait, il est passé de ça au langage cinématographique.
Ah oui.
C'était toujours trop chargé, le langage cinématographique. Oui, trop. Et ensuite, dans sa tour isolée, c'était presque. Voilà, il voulait passer à la musique. Donc là, on est dans l'abstraction encore. À part la langue maternelle.
Alors, oui, donc, aussi, Pierre. Oui, donc moi, Pierrette, Claude de la Génardière, Ouria.
C'est juste une évocation, c'est une écrivaine dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un petit livre qui est en poche d'ailleurs, qui est « Comment j'ai appris à lire ». Elle est de père libanais et de mère, je ne sais plus. Elle raconte, c'est des universitaires, c'est des gens cultivés. Elle est née en France et elle raconte qu'elle apprend à lire, mais qu'elle ne comprend rien. Elle apprend, elle fait des études, elle est en Cagne ou quelque chose comme ça. Bon, et elle, au fur et à mesure, elle comprend pourquoi elle ne comprend rien. C'est que son père chantait une chanson merveilleuse en arabe. Et c'était merveilleux. Alors, elle lui demandait de traduire quand ils étaient enfants. Donc, il traduisait en disant, alors, la lune, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, elle donne la traduction, c'est très poétique. Il dit... Mais en français, on ne comprend pas, on ne comprend rien en français, on ne comprend rien. Donc elle ne comprend rien. Elle devient traductrice, mais elle est connue, hein, mais je n'arrive pas à retrouver. Voilà, c'est ça, Agnès de Sartre. Elle est traductrice et elle passe par la traduction et après la traduction de différentes...
L'arabe en français ?
Alors je ne sais plus quelle langue elle traduit, mais plusieurs, je pense. Et après, elle devient écrivaine en son nom. Mais c'est un fabuleux petit livre.
Grâce à sa non-compréhension de départ.
Parce qu'elle elle reprend exactement ce que son père disait par rapport à la traduction de la chanson. En français, ça ne dit rien.
Oui, évidemment. Ça ne donne rien en français.
Elle écrit des choses magnifiques pour les enfants, cette femme aussi, Agnès de Sartre.
Extraordinaire. Alors, Claude de la Génardière, le micro va arriver.
Un petit exemple que Janine connaît, mais je trouve qu'il est intéressant à mettre en relation avec les échanges. J'ai eu l'occasion, d'une part, de participer longtemps au séminaire de Françoise Davoine et Jean-Max Gaudière. Et après la mort de Jean-Max, un autre séminaire s'est constitué avec des historiens, Audouin Rouzeau, Emmanuel Saint-Fucien, et dans l'idée de rassembler les façons de penser des historiens et des psychanalystes. C'était le projet initial. On a constaté que c'était très difficile d'articuler ces deux modes de pensée. Pardon. Et
tu es en train de répondre à ce que disait Jean-François, Que fais-tu du travail des historiens ?
Voilà. C'est ça. Et je pense aussi avec Jeannine qu'on s'est rencontrés à partir de nos travaux respectifs. Vous voyez, l'émotion, elle est là aussi. Sur les réactions des historiens de non-réception à ce que j'avais essayé d'amener en évoquant l'expérience que j'ai faite avec un de mes frères d'une recherche aux archives de l'armée de l'air sur la carrière de notre père qui avait été officier et donc en Algérie, pendant la guerre d'Algérie et où j'étais allée le rendre visite enfant. Donc j'ai essayé de rendre compte, sans doute maladroitement, du parcours qu'on a fait avec notre frère dans ces archives qui nous a amené à transformer notre vision de notre père d'une façon assez considérable. Et bon, malheureusement, cette présentation s'est faite pendant le confinement, donc avec la visio, tout ça, c'était pas très commode. Mais en tout cas, ce qui s'est passé après dans les débats, c'est qu'ils n'ont pas du tout entendu ni les uns ni les autres. Il y avait des analystes dans la salle. Que je n'avais pas présenté la guerre d'Algérie. J'étais supposée être spécialisée là-dedans, mais du coup, ils n'ont pas du tout entendu que je parlais de mon expérience avec mon père et de la façon dont l'image de mon père s'était complètement transformée et que j'arrivais enfin à pouvoir, à un âge avancé, être libre, naviguer librement avec cette expérience de mon père et les traces, ce qui s'est transmis dans la famille. Et donc, la phrase qui a conclu, enfin non, pas conclu, qui représente magnifiquement cette incompréhension, ce qui a fait que, du coup, après, j'ai écrit un article, c'est que on m'a demandé, l'historien m'a demandé, mais Claude, comment vous avez fait avec un père qui était, disons-le, du mauvais côté ?
Oui, oui, ça m'a choqué.
Donc, rien n'avait été audible.
C'était des propos militants, hein.
Comment ?
C'était pas des propos d'historiens, c'était des propos de militants.
Exactement. Mais voilà, on est obligés tous un peu de déposer parfois nos façons de penser pour essayer d'accueillir l'autre. Et là, ça n'a pas été possible. Bon, ben, j'ai fait un texte après, voilà.
Ou rien.
Oui, merci Jeannine beaucoup. Parce que... t'écoutant parler de Boursa, d'Erzur, etc., j'ai failli pleurer, Halab et toutes ces villes. Et j'ai repensé tout de suite à l'effacement des lieux, justement, et je me disais que l'effacement des lieux, c'est assez paradoxal, parce que justement, tu nommes les lieux. C'est-à-dire que ce travail d'écriture est un travail de reconstruction, de reconstitution et de rappel des lieux. Et quand j'ai pensé comme ça à l'effacement des lieux, je me suis souvenue de ces passages où tu racontais comment ces Syriens qui, sous l'Empire ottoman, avaient accueilli des Arméniens, se trouvent réfugiés aujourd'hui dans des conditions similaires. Et dans ce, tu rappelais aussi que lorsque les Arméniens sont arrivés à... Je ne me souviens plus si c'était à Toulon ou à Marseille... où le maire a dit « Ces Arméniens nous apportent les maladies, etc. »
La lèpre, la peste,
voilà, la lèpre.
Ces indolents orientaux.
Oui, oui. Ce qu'on a dit, on a dit la même chose sur les Syriens. Donc vraiment, c'est vraiment, je me dis, répétition dans l'histoire qui est vraiment très, très dure. Et puis, par rapport à l'historien, mais là, c'est ce que je pense, c'est ma propre hypothèse, c'est que comme il s'agit... de reconstruction, le travail de l'historien pour l'écrivaine que tu es est très important parce que justement ça permet aussi de combler toutes les lacunes ou bien tous les blancs nécessaires pour le travail de reconstruction.
Oui, mais à condition qu'ils ne considèrent pas ça comme hors sujet, justement.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, Hélène, Brigitte.
C'est juste rapidement, là, ça me fait penser votre échange maintenant à Toni Morrison, qui dit qu'elle a voulu restaurer ce dont l'histoire ne peut pas parler. Et elle dit, j'ai pas pu faire de recherche parce que je cherchais, c'était pas dans les documents de recherche. Donc il fallait passer, elle est passée par l'imagination pour rendre compte de la chair de l'histoire, justement.
Moi, je n'aurais jamais... Enfin, moi, je suis passée par le travail à l'élite.
C'est ça, oui. Mais ce que je me demandais en vous entendant, Jeannine, est-ce qu'il faut, je n'en sais rien là, mais est-ce qu'il faut passer, parce que c'est l'importance de l'école républicaine pour vous, hein, et je me dis, il y avait ce lieu, est-ce qu'il fallait passer par une langue étrangère pour pouvoir avoir accès à ce brouillon effacé, à ce brouillon perdu?
Évidemment, parce qu'il faut pouvoir le dire. C'est ça. Donc il faut le dire dans une langue.
Mais dans une autre langue, parce que celle-là, elle est comme...
Il faut le dire à quelqu'un. Oui. Il faut le dire à quelqu'un.
Oui.
Les parents, ça ne sert à rien.
Oui.
Les parents, ça ne sert à rien. Oui. Ils servent à vous protéger, à vous nourrir. C'est tout.
Mais même pour parler aux autres Arméniens, est-ce qu'il fallait passer par le français?
Ben justement, ça c'est tout mon rapport à la communauté. Moi, je n'ai jamais aimé la vie communautaire parce qu'elle elle me permettait pas de l'ouvert, justement. Bon, alors, il m'est arrivé d'aller dans des lieux communautaires, mais ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Par contre, quand je rencontre de jeunes Arméniens, maintenant, et souvent ce sont des cliniciens qui connaissent mon travail, alors là, ils ont l'âge de mes petits-enfants ou de mes enfants, alors là, c'est un délice. Parce qu'ils font eux-mêmes, ce travail dans leur famille, et comme le travail dont parle par exemple Jean-Michel. Alors à ce moment-là, ils ne sont pas dans la propagation de la foi arménienne, patati patata, vous comprenez?
Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que dans l'immédiat, parce que maintenant c'est deux générations plus tard, dans l'immédiat, le passage par la langue de l'autre, ça fait de l'ouvert. Ben oui, qui permet de rejoindre le brouillon effacé.
Parce que ça donne des référents alors qu'on n'en a pas. Et vous voyez, mon premier article que j'ai publié au Temps Moderne, le tout premier, qu'elle a accepté, parce que c'était une historienne à qui j'avais proposé. Voilà, quand j'ai lu le livre de Jean-Marie Kerzou, je me suis dit, mais voilà, c'est ça dont parlait. C'est ça qui explique ce qu'il y avait dans ma famille. Donc j'ai voulu écrire un texte, j'ai fait une sorte de brouillon, je l'ai présenté à une historienne arménienne, d'origine arménienne, qui avait travaillé, qui était la pionnière, qui avait parlé dans l'esprit du problème arménien. Et elle m'a dit, oui, elle m'a dit, il faut écrire ça. Comme vous devez être un peu féministe, vous envoyez ça au Temps Moderne avec une lettre à Simone de Beauvoir. Et j'ai envoyé une lettre à Simone de Beauvoir, qui est citée dans beaucoup de mes livres, où j'explique mon rapport à l'école, etc. Elle représentait pour moi des institutrices, et puis une femme qui avait une féminité, alors que ma mère, elle était toujours devant la famille, la machine à coudre. Donc c'était mon idéal que j'ai pu suivre. Et elle a accepté mon texte, et je l'ai appelé « Comment peut-on être arménien ?» En parodiant comment peut-on être persan. Mais oui, il faut avoir. Mais non, c'est pas les Arméniens s'intéressaient pas à ce que j'écris. Et ceux qui s'intéressent à ce que j'écris, c'est ceux qui sont en rapport avec le travail analytique. Merci. Évidemment.
Merci d'avoir fait entendre ma question tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire quelle question? L'histoire de la laquelle...
Non. Brigitte et Hoche Duval.
Oui, je reviendrai sur la place des émotions dans la pensée, et dans la constitution de la pensée, et je pensais aux émotions de joie. Parce qu'il me semble que vous avez dit que, bon, pour vos parents, c'était obligatoire d'être joyeux. Il y avait quelque chose comme ça. Hein, et dans ce cas-là, alors... Les émotions de joie, ce serait une forme de transgression ou de vice. Et je pensais à cette phrase d'une poétesse, Alice Mendelssohn, qui dit que pour bien vieillir, il est bon d'avoir le vice de la joie. Voilà, je voulais vous dire ça.
C'est-à-dire que je sentais, bon, c'est une projection, quand ils étaient joyeux, je sentais qu'ils étaient joyeux parce qu'il y avait derrière autre chose. Il y avait toujours cet arrière. Par exemple, mon père disait, mon père ne me parlait rien de tout ça. Il parlait de ces choses-là en turc à ses copains. J'étais petite fille, je l'écoutais. Peut-être que mon rapport à l'école vient de cette admiration du père, parce que j'ai toujours senti que c'était un homme qui pensait. Eh bien, à la fin des repas, il disait, aujourd'hui aussi, on a pu manger. Et j'ai trouvé ça par mon travail analytique. Aujourd'hui aussi, on a pu manger. Et je dirais même, les gestes que font ces femmes pour, dans la maison pour nourrir, ce sont des gestes qui savent qu'il faut ménager la vie, qu'il faut tout garder, qu'il faut rien jeter. On apprend ces choses, on les note, hein, on se rend compte un jour qu'on a noté ces choses-là. Et d'une certaine façon, c'est effectivement des messages de vie, hein, parce que ça montre que la vie a du prix. J'ai été justement quelqu'un qui m'a vu à une journée de Patrick Chemla à Reims, voilà, où parlait Pierre de Lyon. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la pensée. Et il a commencé par parler du fait que les valeurs n'arrivaient pas à se transmettre. Et j'ai fait la réflexion, enfin, chez les jeunes, quoi. Et j'ai dit, mais c'est parce qu'ils ne savent pas combien c'est précieux, les valeurs. Parce que finalement, les survivants, ils savent que les valeurs, c'est précieux. Puisque c'est ça qui les... Parce que vous savez, les survivants, c'est, disons, pour 95%, on survit parce qu'on a eu de la chance. Hein. Mais pour les 5%, c'est une persévérance dans les valeurs. Par exemple, je vois, par exemple, dans le texte de mon père, c'est très amusant, on voit combien il a un respect pour sa mère. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il va dire, j'ai été voir ma mère, ma mère a dit ça, etc. C'est un garçon de 14 ans. Et en fait, il a survécu parce qu'il fallait qu'il fasse vivre sa mère, parce que le père a été assassiné. Donc ce sont les valeurs qui, dans les 5% qui restent, permettent de survivre. Et donc les survivants savent ce que c'est que la valeur des choses. C'est précisément ces choses-là, hélas, qui sont dilapidées par manque de savoir ou par manque de quelque chose, je ne sais pas, c'est alors, triste.
Une dernière question, Gilles. Merci. Qui est Gilles ?
Ah, c'est Gilles. Alors, j'ai été frappé par une formule qui, je pense, est emprunté à la préface de l'édition hébraïque de Totem et Tabou, présenter l'essentiel sans pouvoir le formuler dans des termes clairs.
Oui, c'est l'essentiel, mais je ne peux pas le dire en forme claire.
Ouais. Et là, je vais vous amener dans le monde, dans le monde contemporain très, très immédiat, et je voudrais avoir votre point de vue sur cette question liée à la traduction. J'en ai parlé avec quelques-uns, puis je pense même l'avoir évoqué au tout début. Amanda Gorman, une slameuse, poétesse, noire, américaine, lesbienne, non-binaire, etc., et qui raconte dans son poème qu'elle a récité lors de la prestation de serment de Joe Biden et de Kamala Harris. Donc, ce poème, The Hill We Climb, comment, comme des Noirs descendants des African Americans, sa famille et elle appartenant à cette famille, ayant connu l'esclavage et tout. On a fait traduire, il y a eu une soixantaine de traductions dans des langues différentes et... En Hollande, il s'est passé une chose tout à fait particulière. On a choisi une jeune femme, poétesse également, 24 ans, même âge que Amanda Gorman.
Blanche.
Pardon ?
Blanche.
Oui.
Non-binaire.
Et également non-binaire, etc. Cependant, il y avait deux choses qu'elle n'avait pas. Elle n'était pas noire. Et, bien sûr, sa famille n'avait pas connu toute la tradition de l'esclavage. Et on a dit, derrière ce qu'a écrit, derrière ce poème, il y a une expérience, une charge émotionnelle transmise dans la lignée familiale et qu'elle ne pourrait pas s'identifier véritablement, bien qu'elle connaissait la langue, elle pouvait donc, elle avait les images en tant que poétesse et tout. Quelle proximité ou qu'est-ce que change, en quelque sorte, le fait d'être un survivant qui a vécu, a senti ou entendu parler donc d'un trauma collectif, génocide et autres, et l'autre qui n'est pas. Et peut-il s'autoriser, si vous dites que celui-ci il est contraint, le survivant, contraint et empêché en même temps, mais il prend la parole, mais l'autre qui est étranger à ce phénomène, peut-il dire avec autant de force ce qui s'est passé, tout ça? Et que peut-il dire? Et dans quel sens, où va le monde? Et là, on revient au malaise dans le monde contemporain. Si nous aboutissons à cette idée que chacun doit parler pour lui-même dans sa langue, dans une autre langue apprise, et que les autres n'ont pas le droit de raconter la chose. Alors, votre point de vue sur cette question.
Je crois que ce que a raconté Jean-Michel répond à votre question. Parce que c'est parce que Jean-Michel a compris quelque chose de sa mère. Or, est-ce qu'il y a en ce monde des personnes dont il y a qui appartiennent à des familles qui n'ont jamais rencontré le traumatique? Est-ce que ça court les rues? C'est pas vrai. Ça court pas les rues. Donc ça veut dire que il y en a qui perçoivent quelque chose qui va pas chez un parent. Ou bien, je dis, quand je rencontre des choses, l'un, son père s'est tué. Enfin, je veux dire que le trauma existe pratiquement dans toutes les familles. Et on peut s'identifier à ça, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou on peut tourner la page. Moi je pense que cette espèce de séparatisme, ça ne va pas, non, ça ne va pas, c'est pas comme ça. Oui. Ben oui, je pense qu'il doit y avoir chez les psychanalystes des tas de gens dont la mère a dû vivre des choses comme ça et qui réagissent pas, et qui réagissent en devenant psychanalystes. Bon, voilà.
Alors, je saisis la perche pour la conclusion, là. On va rester là-dessus.
Non, mais je voulais quand même dire quelque chose. Je voulais te remercier, non seulement parce que tu m'as fait faire un travail important, mais j'ai l'impression d'avoir dit dans ce texte pratiquement tout ce que j'avais à dire. D'avoir le maximum de ce que j'avais à dire.
Vous avez entendu que c'était... Il y a un petit reste.
Quel reste? Parce que je ne dis pas le maximum.
Je crois que tu as dit pratiquement.